Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Émission Autour du Livre du mercredi 8 mars, qui se trouve être la journée des femmes. Donc avec vous, chers auditeurs et auditrices, nous allons vivre ensemble cet hommage à la femme à travers des partages avec des auteurs, des romans, de la poésie, des lectures de textes, haut en couleur et en musique. Première femme que nous accueillons dans cette émission Autour du Livre, c'est Maryse Vianney qui nous vient d'Ardèche et qui va nous parler de ses deux romans. Tout de suite, donc, nous l'écoutons dans cette interview qui se terminera par une chanson que je vous laisse découvrir. Au micro donc de Radio Territoire Ventoux, Maryse Vianney qui nous vient du 07, donc dans l'Ardèche, dans la ville de Viviers. Bonjour Maryse.
Bonjour aux auditeurs, aux auditrices, bonjour Annick.
Alors Maryse, vous êtes auteure de deux romans, on va dire romanesques. Comment est-ce que vous pouvez les intituler, ces romans?
Alors, La Cinquième Marche... Que dire ? C'est une histoire qui se passe dans les années 50, c'est l'histoire de trois bonhommes. L'histoire commence dans leur enfance, ils se connaissent à l'école, donc deux sont super amis et l'un d'eux a un frangin. Et en fait, il va y avoir à la fois une très forte histoire d'amitié, comme on a tous eu à l'école, là, les bons potes, les bons copains, et en même temps l'antagonisme entre les deux frères. Donc l'un qui va devenir voyou, qui va faire un braquage, la société ne l'intéresse pas, il méprise cette société, et l'autre qui est un bosseur et en même temps qui est poète, qui a toujours aimé écrire, et qui a son copain adore dessiner. Et tous les deux en fait vont participer aux restaurations de la cathédrale de leur ville. Voilà. Et donc l'histoire va durer 30 ans, de leur à peu près leur 10 ans jusqu'à leur 40 ans. Ils vont se suivre toute leur vie, voilà, en quelques mots.
C'est votre premier livre, donc c'est celui que vous avez écrit, le premier livre?
Oui, c'est mon premier roman, oui.
Voilà. Ouais. Et donc le deuxième, c'est Je me carapate.
Alors Je me carapate, c'est une histoire complètement différente. On va suivre une petite gamine qui s'appelle Millie, qui est une super effrontée, une chippie, qui se révolte dans la famille où elle vit, avec le Marcel et la Monique. Et toute sa quête, toutes ses espérances, c'est de partir, c'est de fuir, c'est d'aller ailleurs. Et en fait, ce roman nous parle de ce qui, à un moment ou un autre, qu'on soit homme, femme, jeune, vieux, riche, pauvre, à un moment ou un autre, on a tous envie de se barrer. Mmh. Ça nous arrive tous un jour, une minute, une heure, un soir. Partir, et voilà, partir, tout plaquer, ouais. Voilà, aller voir autre chose, fuir. Et elle a plein de rêves. Voilà, elle sait que la vie, c'est autre chose que ce milieu misérable.
Elle a quel âge ?
Elle a 6 ans au départ. Ah oui. Après, bon, voilà, son adolescence. Voilà, on va la suivre dans tout son parcours, 6 ans, 8 ans, 10 ans, son adolescence. Elle se doute bien que la vie, c'est autre chose que ce qui se passe dans cette famille. Alors, qui est misérable, non pas tant au niveau financier, mais qui est misérable au niveau des relations, quoi, au niveau de ce qu'on lui donne, des relations qu'il y a entre les gens.
Social, culturel.
Voilà, peut-être. Voilà, voilà, social, culturel. Donc, elle est dans un milieu vulgaire, étroit, étriqué. Et elle sait que la vie, c'est beaucoup plus large. Il y a des horizons. Il y a du rêve, elle a le rêve du grand bleu, du grand amour, voilà. Elle voit tout en grand, quoi. Elle va vivre toutes sortes d'aventures et connaître effectivement beaucoup d'autres univers. Parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est découvrir. Et en même temps, elle n'arrive pas vraiment à se poser. C'est quand même ça son souci. C'est qu'elle, il va lui falloir du temps pour se poser. Voilà.
Je lis un de vos lecteurs qui vous a écrit et qui vous dit donc « J'ai été très impressionnée par le rythme de votre écriture. À aucun moment, je me suis ennuyée. Après, j'ai adoré, j'ai bouclé la lecture en 2 soirées et ce fut une succession d'émotions pour cette petite fille, puis jeune femme. » Alors dans votre livre aussi, il y a plein de poésie, de finesse, de fantaisie, de gaieté. Une lectrice aussi nous dit « Ça fait vraiment du bien dans ce monde de brutes. » Voilà, donc ça correspond un petit peu à ce que vous venez de nous décrire dans ce livre. Alors, Maryse, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et nous dire ce qui vous a amené à l'écriture, justement ?
Moi, je suis tombée dans les bouquins quand j'étais toute petite. Donc, quand on avait envie de m'acheter quelque chose, on m'achetait des livres. Et le livre, je le terminais dans la journée. Et comme on m'en rachetait pas un autre le lendemain, bah, je le lisais, je le relisais. Donc, c'est vrai que je n'ai ni frère ni sœur. Donc, moi, c'était mes compagnons de jeu. J'avais mes copains, mes copines, bien sûr. Et puis, j'ai aimé écrire à l'adolescence, comme plein de jeunes. Hein, donc, j'écrivais de la poésie. Ça m'arrive encore d'en écrire. J'écris des chansons, plus particulièrement maintenant. Et puis finalement, le texte romanesque, c'est venu plus tard, à l'âge adulte.
Alors vous dites des chansons, vous écrivez des chansons pour un musicien, enfin un chanteur, qui chante vos chansons.
Donc moi j'ai eu la chance d'être élève de G.G. Gibson qui est très connu, qui est un joueur de blues, un rocker qui est sur l'Ardèche. Donc j'ai écrit quelques chansons pour G.G. Gibson. Il y a mon compagnon aussi qui met certaines de mes chansons en musique. Voilà, et puis je fais partie du tout possible d'un orchestre amateur, on fait de la musique.
Alors vous êtes quand même dans un milieu artistique, on va dire, hein, parce que moi ce que je lis dans sur votre site, donc des lectures, vous faites de la lecture, danse, théâtre, spectacle, concert, vous aimez l'impro hein, dans le théâtre. Voilà, il n'y a pas que l'écriture, hein, il y a aussi tout cet univers artistique.
Oui, bah oui, je pense que quand on a la chance, j'ai envie de dire, d'exercer un art, l'intensité est forte. C'est ça aussi ce personnage de Milly dont je me carapate, c'est qu'elle a besoin de choses super intenses. Et je pense que c'est Milly, ce n'est pas moi, c'est un personnage de fiction, mais. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très intense, de très fort quand on peut jouer de la musique, quand on peut danser, quand on peut faire du théâtre, quand on peut écrire. Et puis aussi, c'est comme je l'ai mis dans mon site relieu, c'est relier les personnes entre elles aussi, l'art. Voilà, parce que là, aujourd'hui, vous voyez, je parle au micro, des gens vont m'écouter. On se relie les uns les autres aussi par la lecture, par les bouquins, ou par le théâtre, ou par la musique, mais on reste pas dans son coin. C'est pas comme le mythe de l'écrivain seul dans son coin. Voilà, déjà, quand il écrit, il est pas vraiment seul, parce qu'il est toujours en relation avec ce qu'il a lu, avec la vie. Et puis après, forcément, quand il est lu, ou quand il rencontre des lecteurs, forcément, il y a plein de vie, il y a plein de relations.
Oui, donc ça c'est le mot relieuse. Mais j'ai vu que sur votre site aussi, donc relieuse, vous proposez des ateliers d'écriture. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces ateliers d'écriture? Comment est-ce que ça se passe et pourquoi vous est venue cette idée de créer ce genre d'atelier?
Souvent, on aime faire partager ce que l'on aime faire soi-même. Hein, quelqu'un qui va aimer bricoler, va aimer faire bricoler des jeunes ou des moins jeunes. Donc, il se trouve que moi, j'ai été formatrice quand j'étais jeune femme. Donc, j'ai travaillé avec des publics de jeunes migrants, avec des publics d'adultes, adultes salariés, adultes demandeurs d'emploi. Là, maintenant, je suis prof, là, depuis une vingtaine d'années en lycée professionnel. Et j'ai remarqué que, quelle que soit la personne, jeune, moins jeune, très intellectuel, manuel, homme, femme, pour peu qu'on mette les gens à l'aise avec l'orthographe, les gens, ils adorent tous écrire, en fait.
Vous êtes prof de lettres?
Ouais, je suis prof de lettres, histoire, géographie, en lycée professionnel. Vraiment, les gens ont le bonheur d'écrire. Donc, en fait, moi, mes ateliers d'écriture, c'est à la carte. Il y a pas, pour le moment, j'ai pas mis de programme spécifique. Les gens me contactent et, en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs contraintes d'emploi du temps, ils viennent écrire chez moi. Certains ont déjà un roman en cours, d'autres sont sur des chansons, ça peut être sur du théâtre, voilà, c'est selon le projet de la personne, quoi.
Quand est-ce que vous avez justement commencé à écrire, hein? Quand vous est venue cette envie de commencer à écrire un livre, votre premier livre?
Pour être très franche, en fait, ça m'est venu à l'enterrement de mon père. Voilà. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré et en même temps, il s'est passé des choses très comiques, genre un film italien. Ça a été un jour très, très contrasté. Et sans doute que ce qu'il y avait en germe en moi depuis de très nombreuses années, ce jour-là, il y avait tous les ingrédients pour écrire un roman. Et comme dans les contes, ça ne s'est fait que 7 ans plus tard. C'est-à-dire entre le moment où j'ai dit j'écrirai un roman et le moment où je m'y suis mis, il s'est passé 7 ans. Voilà, mais je l'ai écrit, je l'ai terminé. Ça a été une aventure 3 ans, puisqu'à côté j'ai quand même un boulot et pas que ça à faire. Et puis une fois le premier terminé, j'ai enchaîné, j'ai écrit le deuxième. Voilà. Et lui, il m'a mis seulement, ça m'a pris 9 mois. Voilà. Et puis après, j'ai écrit des nouvelles, mes récits de voyage en Asie, donc qui vont être publiés cette année. Donc ce sont 11 nouvelles sur la Thaïlande. La Malaisie, l'Inde et le Sri Lanka. Donc c'est pas tant moi que je mets en scène, je parle pas beaucoup de moi, mais les habitants, leur culture, leur religion, leur architecture, ce qui se passe dans les pays où je suis allée. Voilà, j'ai fait toutes sortes de rencontres, j'ai vécu chez les gens, j'ai appris les massages thaï à Chiang Mai, j'ai même donné quelques cours d'anglais comme ça à des copains qui m'hébergeaient. Enfin voilà, j'ai beaucoup vécu chez les gens et comme je voyageais seule, c'était facile. Voilà, donc ce sera mon prochain bouquin qui sera publié cette année, Nouvelle d'Asie. Et là, je suis sur un quatrième bouquin, voilà, dont je ne parle pas pour le moment, mais qui sera peut-être terminé un jour. Sûrement même, je pense, puisque généralement, je vais au bout de tout ce que je commence.
Alors Maryse, pour vous retrouver, donc, alors pour avoir vos livres, on les a facilement, c'est aux éditions Nombre 7, donc on peut les retrouver dans tous les centres culturels, dans les librairies, dites-nous un petit peu.
Alors pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de librairies qui ont mes bouquins. Donc en fait, le plus simple, c'est de me les commander, soit de les commander à Nombre 7, comme Nombre et 7, qui est l'éditeur qui est à Nîmes, Christophe Léondès, soit sur mon site Relieuse, R-E-L-I-H-E-U-S-E. Voilà, relieuse.com. Sinon, sur Carpentras, pour le moment, il n'y a pas encore de libraire chez qui j'ai déposé mes bouquins. Ça se fera peut-être, mais voilà. Voilà, ça fait combien? Ça fait même pas un an et demi maintenant que je les vends. Voilà, ils sont sortis. Oui, ça va faire un an et demi quand même.
Merci, Maryse Vianney, et puis bonne continuation à vous.
Merci, et une belle journée, un beau printemps qui s'annonce là. Au revoir à tous.
C'est l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Et oui, le printemps est là en ce mois de mars. Merci Michel Fugain et le Big Bazar pour cette joyeuse chanson tout en fleurs, en couleurs, pour accueillir le nouveau, le printemps. Nous continuons cette émission avec une autre auteure, Marilyn Wess, qui nous parle de son roman qui s'intitule « Pardonne-moi si tu peux », un roman qui est publié aux éditions Side Press. Nous écoutons Marilyn Weiss. Marilyn Weiss, bonjour.
Bonjour.
Alors Marilyn, vous avez écrit un livre qui s'intitule « Pardonne-moi si tu peux ». Alors vous allez nous parler un petit peu de ce livre, mais avant, je souhaiterais que vous nous parliez un petit peu de vous, où est-ce que vous habitez, et puis vous présenter en quelques mots.
Alors j'ai 34 ans, je suis de Pernes-les-Fontaines. Dans la vie, je fais du soutien scolaire pour des enfants, et donc je me suis mise à écrire il y a environ 2 ans.
Pardonne-moi si tu peux, est-ce que c'est votre premier livre ?
Alors c'est le premier livre publié, mais ce n'est pas le premier livre écrit, j'en ai écrit un avant. Mais Pardonne-moi si tu peux, c'est une réponse à un appel à texte que j'ai trouvé sur internet chez un éditeur. Donc j'ai voulu répondre à cet appel à texte qui demandait un thème, un nombre de mots limité. Et donc j'ai écrit cette nouvelle pour cet appel à texte.
Alors pourquoi écrire et comment vous est venue cette envie d'écrire ? Parce qu'écrire un livre, c'est quand même pas quelque chose qui vous vient comme ça. Comment vous est venue cette envie d'écrire ?
Alors si, dans mon cas, je crois que c'est venu comme ça, du jour au lendemain. J'avais une histoire en tête, je me suis dit, tiens, on va essayer de l'écrire. J'ai écrit une première phrase, j'ai écrit un premier chapitre, et puis bon, je me suis dit que c'était pas trop mal, et j'ai continué comme ça.
Alors comment est-ce qu'on passe, alors après ça c'est une autre étape, de l'écriture à l'édition? Comment est-ce que pour vous ça s'est passé, cette étape?
Alors moi c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé du coup, puisque j'ai répondu à cet appel à texte que j'ai trouvé sur internet. Donc j'ai écrit la nouvelle pour l'appel à texte. Voilà, donc ça a été compliqué puisqu'il y avait un nombre de mots limité à 25 000 mots. Moi j'avais jamais écrit, donc au départ ça fait 28 000 mots. Donc j'ai dû enlever des passages, retirer des phrases, des mots pour que ça rentre pile poil dans ce qui était demandé. Voilà, mais je l'ai envoyé et puis j'ai attendu et j'ai fini par avoir une réponse positive donc.
D'accord. Ouais. C'est ce qui vous a permis de vous lancer en définitive dans votre déjà ce premier ouvrage. Mais vous disiez tout à l'heure que vous aviez commencé déjà un autre livre.
Oui, voilà, avant la nouvelle, donc j'avais déjà écrit un gros livre, bon pour moi, et puis donc celui-là je l'ai envoyé aussi par la suite. Mmh. Là, j'ai eu une réponse positive également. Mmh. Bon, il n'y a pas encore de date de sortie, rien, hein, mais. Voilà.
Et ce livre, donc, ce premier livre, on va dire, qui n'est pas encore sorti, c'est un livre qui parle de quoi? Est-ce que c'est un roman aussi? Parce que là, on est dans un roman, hein. Est-ce que c'est la même chose?
Alors là, c'est un gros roman, puisqu'il y a 115 000 mots. Enfin, je parle en mots, mais voilà. C'est mon ordinateur qui me donne les mots. Alors, je me rends pas trop compte, mais je pense que ça doit être dans les 450 pages. Donc, ça fait 5 fois la nouvelle.
D'accord.
Donc, un gros livre avec de la romance aussi, avec un sujet qui est totalement différent. C'est un peu un sujet catastrophe. Il y a une grosse catastrophe naturelle, sur la planète. Voilà, il y a un petit groupe de survivants et puis on suit ce petit groupe de survivants. Bon, il y a tout, une intrigue, une romance.
Je vais lire un petit peu le quatrième de couverture de ce livre, Pardonne-moi si tu peux, de Marilyn Weiss. Lorraine Clerc, 25 ans, souffre de phobie depuis qu'un délinquant l'a accidentellement blessée quelques mois auparavant. De son côté, Mathias Stevenson, son agresseur, effectue sa peine de prison pour cambriolage et les blessures involontaires qu'il lui a infligées. Alors que le psychiatre de Lorraine lui conseille vivement de pardonner à son agresseur, afin de tourner la page, l'avocat de Mathias lui recommande de s'excuser auprès de sa victime pour obtenir une réduction de peine supplémentaire. A priori, tout semble les opposer, mais c'est sans compter sur la détermination de Mathias et le caractère détonnant de Lorraine. De cette rencontre insolite naîtront des sentiments aussi poignants qu'inattendus. Du remords au pardon, de la haine à l'amour, les préjugés s'envolent et la vérité triomphe. Bon, c'est très prometteur tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture, Marilyn?
Alors, le prochain livre, en fait, est le premier tome d'une série qui devrait comporter plusieurs tomes, je pense 5-6. Donc oui, de gros projets. Là, je viens de finir d'écrire le tome 2.
Quel est le thème de cet ouvrage? Un livre d'aventure, donc, plutôt?
Voilà, il y a un peu de tout dans ce roman.
Oui. Alors donc, vous dites à peu près quatre tomes pour cet ouvrage, c'est quand même pas rien. Hein, et vous avez déjà le titre ou pas?
Oui.
Ah.
En fait, j'hésite entre deux et c'est encore à voir avec mon éditeur. Donc
d'accord.
Je ne vais pas le dire pour l'instant.
D'accord. Ok, on garde le secret pour le moment. Si on veut se procurer votre livre, comment est-ce que ça se passe?
Alors, c'est une impression à la demande, donc c'est-à-dire que vous ne trouverez pas en libre service dans les magasins, il faut le commander sur Internet, donc sur les sites Amazon et puis n'importe quel autre site ou boutique Internet. Il existe aussi en numérique, hein, bien sûr, en e-book.
Alors, pour vous contacter, si vous avez, par exemple, des personnes, justement, qui voudraient communiquer avec vous, est-ce que vous avez une page Facebook, un site, quelque chose comme ça?
Donc, j'ai ma page Facebook, Marilyn Weiss, tout simplement.
Alors, Weiss, je précise, c'est W-E-I-2-S, Marilyn. Merci, Marilyn.
Je vous remercie.
J'ai recueilli quelques réactions de lecteurs, lectrices, et voilà ce que cela donne. Un livre surprenant que ce livre « Pardonne-moi si tu peux ». Un livre déroutant qui ne manquera pas de vous faire réagir. C'est une histoire de qualité qui se dévore en quelques heures. Un livre que je vous recommande chaudement si vous cherchez quelque chose de différent et d'intrigant. Un univers que je découvre pour la première fois et c'est très prometteur. Une plume fluide, captivante et prenante. Une intrigue qui est menée avec une grande agilité. qui est intense en sensations et riche en rebondissements. Des sentiments qui sont parfaitement retranscrits, un ton juste et léger, un rythme soutenu où l'on accroche dès le début et où l'on ne s'ennuie pas un seul instant. Un soupçon de suspense, d'humour, de passion, de sensualité. Tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment. Un dernier avis sur ce roman. Le résumé de ce livre, Pardonne-moi si tu peux, nous donne déjà toutes les grandes lignes de l'histoire. Une jeune femme est victime d'une agression. Son agresseur se retrouve derrière les barreaux. Puis, ces deux-là prennent contact. Et c'est à partir de ce moment que les choses commencent à devenir intéressantes. Nous savons que les deux protagonistes finiront ensemble. Par le résumé, bien sûr, mais avant tout, parce que c'est une romance. Mais de quelle manière ? Comment Mathias, l'homme qui est la source des terreurs nocturnes de Lorraine, sa victime, pourrait-il se rapprocher de celle-ci et gagner sa confiance, son cœur? J'étais incroyablement curieuse de découvrir la stratégie de Mathias afin de conquérir Lorraine et je ne savais pas à quoi m'attendre tout en imaginant les divers scénarios possibles. Nous quittons pour quelques minutes le roman pour laisser la place à la musique avec une chanson de Florent Pagny, Un jour, une femme. Parler d'un autre parce qu'elle porte le monde
qu'elle inonde. L'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche porte jusqu'à sa bouche le front d'un petit monde. Et jusqu'au bout de soi lui donne tout ce qu'elle a. Chaque pas, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde. Et jusqu'au bout du monde.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Je voudrais profiter de cette journée du 8 mars pour rendre un hommage à André Chédid. André Chédid, qui est né le 20 mars 1920 au Caire en Égypte et qui est morte en février 2011 à Paris à l'âge de 90 ans. André Chédid, une femme de lettres, poétesse française, elle a écrit de 1948 à 2010 de nombreuses poésies, romans, nouvelles, récits et autres ouvrages. Son dernier poème en 2010, L'étoffe de l'univers aux éditions Flammarion, et un de ses derniers romans, La maison sans racines, en 2010 aux éditions Flammarion aussi. De très nombreux prix littéraires l'ont récompensé, notamment l'Aigle d'or de la poésie en 1972, le Goncourt de la nouvelle en 1979 pour Le corps et le temps, aux éditions Flammarion, et le prix Goncourt de la poésie en 2002. Nous allons écouter quelques-uns de ses poèmes, un duo, avec la voix d'André Chédid, accompagnée par la voix talentueuse et pleine de présence de Bernard Giraudot. Bernard Giraudot qui a adapté au cinéma en 1991 L'Autre. L'Autre qui est un roman d'André Chédid, édité en 1969 aux éditions Flammarion. Lecture d'un extrait de l'ouvrage de André Chédid, le roman poétique qui s'intitule L'Autre aux éditions Flammarion. Alors L'Autre, c'est l'histoire du vieux Sim. À l'aube, donc, le vieux Sim et son chien traversent un village endormi. Brusquement, un volet claque. Un visage apparaît à une fenêtre. Et puis, le drame. Un tremblement de terre ravage tout. Au milieu des cris et des larmes, le vieil homme cherche à retrouver cet étranger avec qui, quelques minutes avant le désastre, il avait échangé un regard fugitif. Puissant et poétique, L'Autre revisite avec brio le roman classique. Pendant qu'il replie bagages, Sim approche de l'orifice qu'ils ont tous abandonné. Profitant du branle-bas, il s'agenouille, s'empare de l'extrémité du stéthoscope. Il le soupèse, le palpe, le tourne, le retourne entre ses mains, le frotte contre sa poitrine, contre sa joue, cherchant à s'y accoutumer. Autour, les hommes se démènent, replacent les outils dans leur boîte, démontent la pompe, soulèvent la bâche du camion, entassent le matériel à l'arrière. Pour l'instant, personne ne prend garde au vieillard. Mais d'une seconde à l'autre, ils vont venir et lui arracheront l'appareil des mains pour le ranger avec le reste. Comme pour réchauffer l'instrument et s'en rendre complice, Sim fait claquer un baiser au dos du micro-écouteur. Puis, les yeux mi-clos, s'extrayant chaque syllabe de la chair, attendant qu'elle se gorge de sang, d'espace, avant qu'elle ne traverse les lèvres, puisant à une source où la parole est encore libre et peut atteindre l'autre, où qu'il se trouve, d'où qu'il vienne. Ami, Écoute, écoute-moi. Tu es là, je le sais. Écoute, réponds, il faut qu'on t'entende. Soudain, ils sont tous revenus. Une forêt de jambes encercle Sim. Celui-ci serre l'objet encore plus fort entre ses doigts. Ses mains sont moites. La sueur coule le long de ses tempes jusque dans son cou. Ami, si tu ne veux pas parler, crie. Vite ou ce sera trop tard. Sim cherche désespérément le mot. L'interprète le lui souffle. Les sauveteurs sont ici. Ils attendent ta voix. Vite, vite, ils vont partir. Les piétinements soulèvent la poussière. Sans relever la tête, le vieillard sent sur ses épaules le poids de leur impatience, de leur hostilité. La menace de leur départ le paralyse, lui arrache le temps de trouver d'autres mots. Mais subitement, ses paroles le devancent. Subitement, elles se bousculent dans sa bouche, dévalent dans le trou. « Vite, parle, un mot, un cri, ils sont là. Après on sera seuls, toi et moi, rien, je ne peux rien seul. Vite, vite, très vite, ils s'en vont, vite !» Remontant toute la longueur du tube, traversant enfin l'écouteur, en ondes interminables, se prolonge et s'étire. Sim brandissait le micro par-dessus sa tête. « Voilà, il a parlé, venez tous écouter !» L'appareil passait de main en main, chacun voulait entendre et chacun entendit. Le chef des travaux reprenait l'affaire en main. « Diego, prends Estavro avec toi. Ramenez un tracteur, une remorque, les éléments d'une baraque, tout ce qu'il faut pour la monter sur place. De la lumière, du ravitaillement, on campera ici jusqu'à ce que l'on sorte. Remontez aussi la pompe à oxygène. Il faut le plus vite possible lui donner de l'air. Vous introduirez le tube lentement, très lentement. La moindre maladresse et vous risquez de boucher l'ouverture. Il faudra un autre tube pour lui passer des aliments liquides. Tout cela est urgent. À Noir, vous n'avez pas besoin d'être quatre pour remettre cet appareil sur pied. » Badian, Ali, aplanissez les bords du réduit. Que le vieux continue de lui parler, qu'il lui dise de tenir, qu'on l'en sortira. Déjà Sim avait repris sa place. Oh, oh, ils t'ont entendu, ils restent, tu sortiras. Tu crois qu'il te comprend, passant comme tu fais sans arrêt d'une langue à l'autre? L'autre matin, il m'a salué avec des paroles de chez nous. Moi, je fais collection des mots, de tous les mots. C'est ma marotte. Oh, tu seras dehors, tu verras le soleil, je te le dis. Ne te réjouis pas trop, Sim. C'est maintenant que les complications commencent. Le chef des travaux distribue les consignes. Joseph, tu préviendras les autorités. Il faut empêcher les curieux d'approcher. Et surtout, pas de journalistes. Ils s'agglutinent sur le malheur comme des mouches. Avec eux sur place, il n'y aura plus moyen de travailler. Il faut tenir la chose secrète jusqu'au bout. Officiellement, nous sommes ici pour poursuivre les travaux de désinfection, de déblaiement. Un point, c'est tout. Aucun d'entre vous ne devra rentrer chez lui avant que tout ne soit terminé. Cela évitera les fuites. Quand l'homme verra le jour, il sera temps d'ameuter tout le monde. Pas avant. Maintenant, c'est le tiré de là qui doit seul compter. Et ce n'est pas encore dans la poche. Qu'est-ce qu'on fait du vieillard? Il peut encore être utile, après tout. C'est à lui que le rescapé a toujours répondu. Mais il est mort de fatigue. Demande-lui s'il veut partir. Dans ce cas, recommande-lui le silence. Alors, grand-père, qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes? Sim regardait bouche bée. Tu ne m'entends pas? On te demande ce que tu veux faire. Ce que je veux faire? Si tu veux partir ou bien partir? Simon leva les bras au ciel, éclata d'un rire énorme. Moi, partir? Bon, on a compris. mais tu ne peux pas répondre oui ou non, comme tout le monde. » Fin du chapitre 3 du roman « L'autre » de André Chédid. Bernard Giraudot, qui a adapté au cinéma en 1991 « L'autre ». Bernard Giraudot, que tout le monde connaît bien sûr, acteur, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma et écrivain français, qui lui aussi nous a quittés en juillet 2010, à l'âge de 63 ans. Tout de suite après cette lecture de poèmes, nous écouterons une chanson familiale, paroles et musique de Louis Chédid, fils de André Chédid. Il chante avec trois de ses enfants, Mathieu, Anne et Joseph. Place à la poésie avec André Chédid et Bernard Giraudot.
Toi, moi. Par l'univers planète, univers à toute bride. Par l'univers bourdon dans chaque cellule du corps. Par les mots qui s'engendrent, par cette parole étranglée. Par l'avant-scène du présent, par vent d'éternité. Par cette naissance qui nous décerne le monde. Par cette mort qui l'escamote. Par cette vie plus bruissante que tout l'imaginé. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Pour survivre,
tu auras pour survivre des collines de tendresse, les barques d'un ailleurs, le delta de l'amour. Tu auras pour survivre le soleil d'une paume, le tyran d'une parole, l'eau du jour à jour.
Tu dresseras pour survivre des brasiers, des terrasses. Tu nommeras la feuille qui anime le rocher.
Tu chanteras les hommes, transpercés du même souffle, qui accomplissent leurs songes face à l'éclat mortel.
Je prononce ténèbres, pour mieux dire hirondelles. Parce qu'elles se traversent, je dénombre les murailles. Je me serre contre l'ardoise pour y graver poèmes et plonge dans les gouffres pour embraser l'instant.
Chantier du poème. L'arrivée du poème est multiple. La plupart du temps, il progresse comme une vague qui déroule sa turbulence d'images et de mots. Il s'organise parfois autour d'un mot clé. Mot noyau, tombant dru, bousculant le vocabulaire pour se chercher plus loin. Mais plus encore, soulèvement du dedans. Mouvement en quête de ses rythmes, de sa forme parole.
Rarement le mot m'est donné d'un trait. En général, il m'arrive comme une matière brute dans laquelle je fourrage et trouve peu à peu une ordonnance, des rapports, des sonorités. Serrant les écrous, rejetant le plâtre, repoussant les écorces, je tente d'aller au plus près de ce mouvement initial qui fait écrire, de ce mouvement qui peut-être tout simplement fait vivre en densité.
J'aime que le mot soit rétif, mot sur lequel on bute, et sans lequel le poème ne tiendrait pas. J'aime le traquer, ce mot, partout. Dans la vie courante, dans d'autres textes, dans le journal, sur une affiche, dans le métro. Soudain, il tombe, comme un fruit mûr sur un sol en attente, ou se laisse capturer comme l'oiseau dans les filets patiemment tendus. Ce mot que l'on sent juste, qui sonne juste, je le lis haut pour l'oreille, fait que l'on peut quitter le poème en repos. On s'éloigne, libre, pour renaître, haletant, devant le texte à venir. Rien de moins abstrait, de moins factice que cette préoccupation. Le corps, la circulation sanguine, la respiration s'en ressentent. La poésie, par moments, nous grefferait-elle à la totalité, à l'ouvert, à la vraie vie?
En danger de mots. À quoi servent les mots face à celui qui meurt?
Ils apprivoisent l'abîme, désamorcent les peurs, ramifie la tendresse jusqu'au seuil de l'obscur.
À quoi servent les mots face à celui qui vit?
Ils brisent, ou bien apaisent, incendient ou délivrent. Ils modèlent nos visages, saccagent ou donnent ferment. Pas de clé à la poésie. Pas de clé à la poésie, pas de ciel, pas de fond, pas de nid, pas de nom. Ni lieu, ni but, ni raison. aucune borne, aucun fortin, aucun axe, aucun grain, mais ce souffle qui s'infiltre dans l'étoffe des âmes pour délier leur saison. Peuple d'hirondelles au regard pénétrant, à la vue déployée. Destination, arbre. Parcourir l'arbre, se lier au jardin, se mêler aux forêts, plonger au fond des terres pour renaître de l'argile. Peu à peu s'affranchir des sols et des racines, gravir lentement le fût, envahir la charpente, se greffer aux branchages. Puis, dans un éclat de feuilles, embrasser l'espace, résister aux orages, déchiffrer les soleils, affronter jour et nuit. Évoquer ensuite, au cœur d'une métropole, un arbre, un seul, enclos dans l'asphalte, éloigné des jardins, orphelin des forêts. Un arbre au tronc rêche, aux branches taries, aux feuilles longuement éteintes. S'unir à cette soif, rejoindre cette retraite, écouter ses appels, sentir sous l'écorce captive, mais invincible, la montée des sèves, la pression des bourgeons, semblable aux rêves tenaces qui fortifient nos vies. Cheminer d'arbre en arbre, explorant l'éphémère, aller d'arbre en arbre, dépistant la durée.
Renaître, porté par le reflux des sèves, par ces paroles qui font l'été, par ces soleils gorgés d'échos, tu graviras cœurs et sentiers, tu ne cesseras de renaître, taillant brèches et mots dans la paroi des jours.
Ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquelles on dort, on dîne, on parle au téléphone.
Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur, mais de là en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes.
Avant de nous dire au revoir, de marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe,
je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait dans sombre sans vous autour.
Vous tous autour, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On leur dit jamais assez que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, on leur dit jamais assez qu'on les aime.
Je vous aime.
Louis Chédid, auteur-compositeur-interprète français d'origine libanaise, né en janvier 48 en Égypte, fils donc de la romancière André Chédid, chante donc avec ses enfants cette chanson « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ». Une chanson qui a été écrite en 2010. Les petites annonces pour ce mois de mars et le tout début du mois d'avril. Avec la troupe Compagnie de Théâtre et Association Bonheur de Lecture, 4 dates à retenir. Alors Bonheur de Lecture, vous savez qu'ils nous proposent des lectures, de textes, des grands textes et qu'ils mettent donc en scène avec des comédiens, lecteurs et des musiciens improvisateurs. La première date à noter sur vos agendas, vendredi 10 mars à 19h à la bibliothèque municipale de Sarrian. Une lecture, un roman contemporain, Nous serons des héros de Brigitte Giraud. Toujours Nous serons des héros de Brigitte Giraud. Alors là, ça sera le vendredi 17 mars à 15h au Petit Théâtre de la Charité à Carpentras. Le vendredi 31 mars à 20h30 à la bibliothèque de Bédouin, une lecture du roman de Jim Harrison pour le titre de son roman D'Alva. Le jeudi 6 avril à 18h30 au Petit Théâtre de la Charité à Carpentras, Charles de Gaulle, donc pour son ouvrage France automne 1944. Ces pages sont donc tirées des Mémoires de guerre, tome 3, qui s'intitule Le Salut, aux éditions Plomb en 1959. Le samedi 11 mars, alors là nous quittons le Bonheur de Lecture et c'est un salon du livre jeunesse, le 17e salon du livre jeunesse à l'école Lucie Aubrac, dans la ville de Lille-sur-Sorgue. Vous y trouverez de 10h à 18h30 des ateliers, des lectures et des auteurs pour vous dédicacer vos livres. À l'espace culturel de Carpentras au boulevard Alfred Naquet, des rendez-vous dédicaces avec plusieurs auteurs hommes-femmes. Donc première date, le samedi 18 mars de 10h à 18h, Abraham Lancry sera en séance de dédicace pour son roman « Le chant d'amour d'un illuminé ». Le samedi 25 mars de 14h à 19h, Bruno Bastero sera en séance de dédicace pour son roman d'anticipation « Code, l'arrêt d'Internet ». Un roman vendu à 35 000 exemplaires à ce jour. Le samedi 1er avril de 10h à 18h, Cécile Coppel sera là pour dédicacer le troisième tome de sa saga « Le monde d'Anna O'Neill ». Le samedi 8 avril de 10h à 18h, c'est Christine Cazuzo qui dédicacera son tout dernier thriller « Vengeance d'outre-tombe ». Suite des petites annonces après cette chanson de Julien Clerc, « Femme, je vous aime ».
Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure. Que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Quelquefois si drôle
sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle. Regard qui frôle. Quelquefois si seul, parfois elle le veut. Oui, mais si seul. Oui, mais si seul.
Écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Journée de la femme le 10 mars à la salle de la Charité, donc vendredi 10 mars à 20h30. D'après Virginia Woolf, une chambre à soi avec Camille Vivante. La mise en scène est de Malika Delamo. Ce texte, on nous dit, est un véritable message d'espoir. Invitée à faire une conférence sur les femmes et le roman, Virginia Woolf déroule le fil des pensées que ce thème lui a inspiré. Elle pose les bases du féminisme naissant en Angleterre. Ce texte est exceptionnel. Virginia Woolf, sans plainte, sans récrimination ni désir de vengeance, réclame l'autonomie financière et le droit à l'intimité, un lieu à soi qui ferme à clé pour pouvoir écrire tranquillement en toute liberté et en n'opposant pas son identité à tel ou tel autre. Cette liberté a un prix. Il ne faut plus attendre de protection. Il faut oser prendre des risques, oser dire ce que l'on pense et surtout ne plus mépriser ni haïr qui que ce soit. Cessons de haïr pour parvenir à être ce que nous sommes, unique, riche, irremplaçable et libre. La réservation pour cette soirée est au 04 90 60 84 00 ou bien sur le site de Carpentras, www.carpentras.fr. Une toute dernière chanson engagée de Charles Aznavour, Le droit des femmes.
Le droit des femmes. Le droit des femmes.
Comment ?
Alors,
depuis qu'avec l'homme sur terre elle fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus. Je le proclame,
je le proclame.
Ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais n'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Bien des choses ont évolué depuis que Rome
voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir comme. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus, je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont tué. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafouis et cocus, l'inacceptable. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable, les jeux sont faits, rien ne va plus, carte sur table. Le droit des femmes,
le
droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Femmes poupées, femmes au foyer, femmes que l'on vexe, toutes ces femmes libérées de leur complexe, parlent de choix, parlent d'idées comme de sexe. Alors messieurs, ayons fair play, le bon réflexe. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes. Bon, ça va, hein, doucement les bases.
C'est le
ce que jadis, l'exagération est un défaut quand même. Se sont battus mais l'ont tué, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, poussir un landau sur les lieux mêmes où tous ses copains font le beau devant un crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on aime. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus. Je le proclame,
je le proclame.
Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont tué. Le droit des femmes et de la chambre. Aujourd'hui le monde a changé, tout passe et casse. La femme dans la société a pris sa place. Pilote, écrivain, PDG et puis j'en passe. Comme finir à l'Élysée un jour de grâce. Le roi des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Échange de bons procédés, l'homme peut faire quelques-uns des petits métiers, des ménagères. On peut le voir marcher sur les grandes artères, fardé, peu vêtu, accolé, ses congénères. Le droit des femmes,
le
droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais l'ont tué. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Vous écoutez l'émission Autour du Livre avec Annick sur RTVFM.
Cette émission Autour du Livre, où la femme a été à l'honneur, se termine. Elle sera en rediffusion le mercredi 22 mars sur le 102.2 à la même heure de 20h à 21h et vous pourrez aussi la retrouver en podcast sur notre page Facebook ou sur notre site web au www.rtvfm.net. Merci pour votre fidélité et bon mois de mars.